coq chanter et jour paraît, tous ces debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons à N'Djamena. Dans la capitale de la République du Tchad, s'est tenue du 25 au 28 juillet 2017 la conférence des ministres de la CEAC sur l'écosécurité, le conflit homme-faune et les autres conflits liés à l'utilisation des terres en Afrique centrale.
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs.
Derrière cet intitulé officiel de la conférence, il faut voir beaucoup de choses. L'Afrique centrale dispose d'un capital naturel abondant, varié, divers et diversifié, constitué des ressources d'origine biologique et non biologique, parmi lesquelles se trouve le coltan dont 85% des réserves mondiales se trouvent en RDC. Ces ressources sont avec le bois au cœur de l'économie de la majorité des États et cohabitent avec une flore et une faune variées. Ce capital naturel du sol, du sous-sol et des fonds marins est pillé, volé et saccagé par des groupes criminels, voire terroristes de diverses origines utilisant des armes de guerre. Cette criminalité environnementale ou l'exploitation illégale des ressources naturelles alimente le commerce illicite en la matière, causant ainsi des pertes économiques énormes aux États et des menaces sur la paix et la sécurité, sur la survie des espèces biologiques et des conditions de vie de population. Aujourd'hui, les spécialistes parlent d'écosécurité. Il se trouve qu'un État tout seul ne peut pas faire face à un phénomène transnational. Et c'est pourquoi l'affaire a été confiée à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, organisme d'intégration sous-régionale regroupant 11 pays. Les explications de Henri Diombo, ancien ministre congolais de la forêt et de l'économie forestière et aujourd'hui ministre de l'agriculture.
Il s'agit d'un combat permanent pour sécuriser nos ressources naturelles. C'est un combat permanent, comme je l'ai dit, et qui appelle l'intervention de toutes les parties prenantes. On peut dire en général que la conservation de la biodiversité en Afrique centrale est réalisée particulièrement dans des espaces bien définis que nous appelons les aires protégées. Malheureusement, ces aires protégées ne le sont que virtuellement, dans la mesure où elles sont sous-équipées, sous-administrées, sous-financées. On n'a pas l'impression qu'on a les moyens de l'éradication, par exemple, du braconnage dans nos pays. Les ressources qui sont affectées à la conservation sont extrêmement faibles. Jusque-là, il n'y a pas une seule initiative, qu'elle soit régionale ou internationale, qui permette d'entrevoir une meilleure situation dans le domaine de la faune sauvage. Et bien sûr, toutes ces perturbations sont causées par l'organisation d'une mafia internationale qui exploite abusivement, notre biodiversité. Nous ne pourrons pas agir avec circonspection et surtout avec efficacité. Mais nous sommes ici pour examiner les solutions à ces problèmes sur un programme d'éco-sécurité dans la sous-région. L'Afrique avait adopté, il y a 2 ans exactement, le chef d'État avait adopté la stratégie commune africaine de lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la faune sauvage d'Afrique. Il s'agit de la mettre en œuvre. Il s'agit que chaque région puisse se l'approprier, élaborer sa stratégie régionale et les États membres à élaborer leur propre stratégie également. C'est d'abord une question locale et nous devons tirer partie des expériences réussies de règlement des conflits dans d'autres pays. Et l'expression, la manifestation de ces conflits est différenciée selon les pays. Et je crois qu'il faut que nous échangeons davantage sur ces questions pour pouvoir nous entraider. Il faut des interventions communes entre l'armée, disons la force publique et les éco-gardes. Il faut qu'il y ait comme une organisation bien charpentée au niveau régional. Il faut un état-major qui donne des ordres, qui coordonne les actions sur le terrain, pays par pays, parce que les idées sont bonnes, les projets aussi, mais sans ressources financières et sans motivation des acteurs sur le terrain, on ne peut pas s'attendre à des résultats. On prend des initiatives puis elles s'arrêtent, parce qu'on ne les a pas accompagnés des moyens de mise en œuvre, et cela est regrettable.
Tirer profit des expériences réussies dans d'autres pays, le cas du Tchad est emblématique. Pays à la jonction entre la forêt au sud, les savanes sahéliennes et le désert au nord, le Tchad a été très durement touché par la dégradation de l'environnement et l'exploitation illégale et abusive des ressources naturelles. En matière agricole, seul le 2,8% du territoire tchadien est cultivé. Pays d'élevage par excellence, le Tchad compte près de 94 millions de têtes de bétail. Deuxième source de revenus après le pétrole, la part de l'élevage dans le PIB national est de 53% et fait vivre environ 40% de la population. Dans les échanges, il représente 30% des exportations, soit 37,5 milliards de francs CFA en 2014. C'est dire que les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Tchad, on connaît la question. Pour ce qui est du braconnage, le sud du Tchad est touché par ce phénomène. C'est un pays qui a dû réagir. Brock Mahamat est ministre tchadien de l'Environnement et de la Pêche.
Merci Sayouba. La situation comparée à il y a 15-20 ans, on peut dire qu'elle s'est nettement améliorée du point de vue de la conservation de la biodiversité dans sa globalité. Nous sommes, comme vous le savez, un pays en proie à la désertification. J'allais dire un pays mangé par la désertification. La grande partie, j'allais dire, est mangée déjà par la désertification. Et ce travail d'adaptation, de reboisement est fait au Tchad de longue date.
C'est-à-dire que les communautés villageoises se sont adaptées d'elles-mêmes à ce qui se passait?
Bien sûr, d'elles-mêmes. Déjà de façon naturelle, les gens jaloux de leur terroir et ne voulant pas le fuir, ils se sont adaptés et restés. Mais depuis que le gouvernement en 72 a pris la mesure de la dangerosité du phénomène et a mis tout de suite en place ce qu'on a appelé la Semaine nationale de l'arbre, donc c'est une activité qui revient chaque année, qui est dédiée au travail de reboisement sur l'ensemble du territoire, en mois d'août, quand le sol est bien arrosé. Depuis cet instant-là, le gouvernement est allé à la rescousse des populations et donner à ces populations-là qui en expriment les besoins, les plans nécessaires, et procéder à la mise en place des pépinières un peu partout pour que les villageois eux-mêmes arrivent à reboiser pour lutter contre l'avancée du désert, mais aussi pour se protéger contre le vent des sables et les poussières, ces poussières immenses qui causent beaucoup de désagréments à la population. Ici, il y a une tradition qui voudrait que chacun garde son territoire, j'allais dire. Quelle que soit la difficulté de la vie, quel que soit le manque de clémence de la nature, les gens préfèrent rester chez eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Tchadiens ne migrent pas.
C'est dû à cette tradition-là.
C'est dû à cette tradition. Je respecte cela, mais je dis qu'il faut rester chez soi.
un autre phénomène, toujours l'action de l'homme, qui vient s'ajouter à cette histoire, le braconnage. Et je précise que ce n'est pas le braconnage villageois qu'on connaissait avant, celui-là est international.
Le braconnage, et c'est de cela qu'on va discuter lors de cette conférence. Le braconnage s'est fait aujourd'hui à grande échelle par des hommes puissamment armés, des anciens rebelles, des militaires des pays ayant traversé des moments difficiles, comme peut-être la RCA, des gens du Darfour sont venus aujourd'hui qui équiment la brousse tchadienne. Leur cible, ce sont les éléphants. Donc, c'est l'argent de l'ivoire vendu qui alimente un peu les réseaux terroristes à l'international, d'où la nécessité pour nous, en tant qu'État de la sous-région, de mutualiser nos forces et d'harmoniser nos textes pour que cette lutte anti-braconnage s'efface exactement à la hauteur de ce braconnage-là. Ce n'est pas seulement la lutte anti-braconnage qui nous intéresse. On va au-delà pour lutter contre tout ce qui est dégradation de l'environnement. Au Tchad, on l'a déjà commencé. Déjà, au niveau du CITES, on est connu pour être un peu le champion en matière de lutte anti-braconnage. CITES, c'est le Conseil international du commerce illicite des espèces fauniques. Donc, nous, à ce titre, on joue un rôle de premier plan. Il a fallu l'armée, puisque les braconniers, ce sont des anciens militaires, des anciens rebelles qui sont armés, ils sont surarmés. Donc, à cette force, il faut opposer une autre force qui a le même arsenal, sinon plus. Et grâce à cette mesure, aujourd'hui, la faune au Tchad s'est reconstituée.
Quelle ethnie ça?
On a plusieurs ethnies ici, hein, mais c'est la musique de quelle ethnie?
On comprend donc pourquoi les conférenciers parlent d'éco-sécurité, ce qui comprend la notion de droit de poursuite. En termes simples, le droit de poursuite donne la possibilité à une force anti-braconnage de franchir une frontière entre États dans sa lutte contre les braconniers. Et les forces du pays tiers prêtent main forte aux poursuivants étrangers. Ce genre de discussion technique se mène au niveau supranational. Madame Josepha Sako est commissaire de l'Union africaine en charge de l'agriculture et du développement rural.
Au niveau de l'Union africaine, nous avons notre agenda, la 2063, dont l'aspiration numéro 1 de cet agenda, c'est la préservation de la nature pour un développement durable. On a déjà mis en place une stratégie continentale pour la conservation de la nature. On a eu la réunion de Brazzaville en 2015 et les chefs d'État ont décidé qu'on doit passer à la mise en œuvre de la décision de la conservation de la nature. C'est vrai que parfois, la question, c'est la mise en œuvre à cause de problèmes de la mobilisation de ressources, parce qu'on met les instruments, mais la mise en œuvre, souvent, c'est dû à la manque de financement.
Moi, je dirais qu'il y a urgence dans la mesure où les ressources diminuent, les populations augmentent. Et on sait que la majeure partie des populations des pays africains vivent en milieu rural et dépendent fortement des ressources naturelles.
Voilà le sens de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et puis les États membres. Nous devons travailler tous ensemble pour harmoniser les politiques. Les idées sont de taille, mais nous avons un roadmap qui peut nous guider à travailler ensemble et chercher les solutions et partager les expériences. Par exemple, pendant que l'Afrique centrale est en train de voir les problèmes de braconnage, l'Afrique de l'Est est plus avancée, dont le Kenya, l'Afrique du Sud. Donc voilà, ces plateformes sont tellement importantes pour l'échange d'expériences et apprendre les bonnes leçons, les bons exemples qui sont dans notre continent. L'Union africaine est là pour chapeauter toutes ces initiatives parce que ce sont des décisions de nos chefs d'État et la réunion ministérielle qu'on est en train de prendre part ici au Tchad, à N'Djamena, c'est pour la mise en place de la décision des chefs d'État au niveau continental, au niveau sous-régional, ici la CIAC, et puis au niveau national. Normalement, ça c'est le schéma que nous menons pour la mise en œuvre de décisions de nos chefs d'État.
Je vous remercie, madame, de nous avoir reçus ce matin, d'autant plus que vous êtes attendue.
Merci, RFI.
Suivant cet agenda diplomatique et cette vaste mécanique institutionnelle, en Afrique centrale, la conservation et l'écosécurité, c'est l'affaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mfula Marie-Thérèse Chantal est secrétaire générale adjointe en charge de l'intégration physique, économique et monétaire de la CEAC.
Vous vous souvenez que des braconniers ont ravagé des centaines d'éléphants dans le parc national du Cameroun à côté, Boubadjida, en 2012. Une réunion s'est tenue en 2013 avec des ministres en charge des forêts, de la défense, etc. Tout ça pour prendre des mesures afin de réduire cette menace des braconniers qui met même en péril la sécurité de nos États. Il y a toute une série d'activités qui vont être organisées autour non seulement de l'éco-sécurité, l'éco-agriculture, l'économie des parcs zoologiques, parce qu'il faut, avec l'économie verte, créer des emplois, multiplier les sources d'entrée de revenus pour nos États qui ne peuvent plus se permettre de ne compter que sur le pétrole, qui subit une baisse drastique des cours sur le marché international.
De toute façon, même si le pétrole était au plus haut, vous savez que c'est une ressource qui n'est pas éternelle.
La ressource n'est pas éternelle et il faut donc, suivant les décisions prises par les chefs d'État africains et les nôtres ont pris part, assurer la diversification économique, tenir compte de ces ressources naturelles que nous avons en Afrique centrale pour assurer le développement. Il ne faut pas simplement compter sur ce pétrole qui tarit un jour ou l'autre. Il faut qu'on puisse compter sur d'autres ressources et l'Afrique centrale a cette chance naturel, c'est son sous-sol, c'est sa forêt, c'est sa faune, sa flore. Donc c'est tout un processus qui est enclenché, les résultats commencent à se faire sentir, on mène la lutte contre ces braconniers qui se réduisent, même si elle n'est pas encore totalement gagnée. La guerre n'est pas gagnée, mais la bataille, de petit à petit, on obtient des résultats assez satisfaisants.
Je vous remercie, madame.
C'est moi qui vous remercie.
Il y a une philosophie d'ensemble qui soutient toutes ces actions, ce que les spécialistes appellent l'économie verte. Celle-ci se définit comme l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Le docteur Honoré Tabouna est expert en valorisation de la biodiversité et de l'économie de l'environnement à la CEAC à Libreville.
Cette économie ou ces activités économiques qui font le lien entre la protection de l'environnement, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout le développement des entreprises et la création d'emplois. La valorisation de la biodiversité à travers l'économie de l'artisanat et des petites entreprises. Je terminerai aussi sur une question qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse la sous-région, c'est la valorisation des savoir-faire traditionnels portés principalement par les populations autochtones et locales dans toutes les zones écologiques de la sous-région.
En fait, l'affaire a deux volets. D'abord, la sauvegarde et la protection de l'environnement. Ensuite, la valorisation. Alors, une conférence vient de se terminer à N'Djamena qui a réuni les ministres des 11 pays de la CEAC ou leurs représentants. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quelle étape sommes-nous dans cette histoire de protection de l'environnement? Parce que ça fait des années qu'on en parle.
Exactement. Donc, nous sommes là dans un processus qui a commencé dans la sous-région après Rio 92. Alors, la première étape, si on peut dire ça, c'était la mise en place d'un cadre institutionnel en matière d'environnement et de gestion de ressources naturelles, avec la création en 96 à Brazzaville de la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale. C'est la CEFDAC.
Ah, c'était la CEFDAC au début.
Au début, donc c'était 96. Trois ans après, il y a une réunion à Yaoundé, à la fin de laquelle va être signée ce qu'on appelle communément la déclaration de Yaoundé, c'était en 1999, qui va poser les bases de ce que va devenir la COMIFAC, commission des forêts d'Afrique centrale. Et à cette occasion-là, il y a l'adoption de ce qu'on appelle le plan de convergence, qui est donc la vision de la sous-région pour la gestion durable des écosystèmes forestiers. Après, il y a d'autres organisations qui vont être créées, toujours dans le secteur de l'environnement et des ressources naturelles. Vous avez l'Organisation africaine du bois, vous avez l'OCEFSA, qui est l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage d'Afrique, et vous avez après l'Agence de développement pour l'information environnementale. Alors, à partir de 2009, commence donc la réflexion sur le lien entre donc la protection de l'environnement, le lien entre la conservation et l'économie. On va faire porter, disons ça, sur le chapeau de économie verte, hein, qui n'est que pour nous une façon de passer de la conservation à l'économie de la conservation. Voilà, ça c'est l'effort à faire, et c'est ça qui va permettre aux États de prendre conscience que, en Afrique centrale, compte tenu de notre capital naturel, il faut tout faire pour que ce capital naturel-là se transforme en capital productif, en créant des emplois, en développant l'économie, en améliorant les conditions de vie de population. Nous avons ici les 5 zones écologiques. Vous avez le Sahara, vous avez le Sahel, vous avez la savane sèche, vous avez la savane humide, vous avez la forêt humide, vous avez la forêt sèche.
Et bien, il y a même des façades maritimes et des parcs.
Exactement, exactement. Sur le plan culturel, nous avons plus de 1000 ethnies dans la sous-région. Et quand vous rentrez à l'intérieur de chaque ethnie, vous découvrez plusieurs segments de la culture. Et là, on peut aussi donner de la valeur économique à ça. Voilà pourquoi, par exemple, dans le cas de l'écotourisme, qui va faire le lien entre, disons, le capital naturel et le capital culturel, l'Afrique centrale a des avantages comparatifs, a des choses à proposer, disons, aux touristes du monde.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Avant la cérémonie de clôture de cette conférence ministérielle, une dernière causerie avec Charlie Fâcheux, qui est vice-président en charge des projets de conservation de l'African Wildlife Foundation, ou AWF. C'est une organisation non gouvernementale fondée en 1961 en vue d'encadrer les populations locales pour la préservation des ressources naturelles.
Nous militons pour une préservation de l'environnement. Nous militons pour, évidemment, pour que l'environnement cohabite avec le progrès. L'Afrique a besoin de se développer et l'environnement a sa place. Ça veut dire effectivement que ces richesses-là doivent permettre aux populations de se soigner, de se nourrir, de générer des revenus.
Et que faites-vous concrètement pour ces familles-là dans les villages?
D'abord, je vous dis que nous sommes dans à peu près 23 pays en Afrique avec des projets. Nous travaillons avec des communautés très pauvres. Nous disons à ces communautés, vous pouvez améliorer votre niveau de vie en tenant compte de l'environnement. Au Cameroun, à RDC, en Ouganda, en Tanzanie, je peux citer plusieurs pays, nous avons pu améliorer le niveau de vie des communautés. Elles sont passées par exemple d'un niveau de moins de 1 dollar par jour à peu près à 3 dollars par jour. Simplement en mettant en place des activités socio-économiques qui peuvent cohabiter avec un souci d'environnement.
Quel type d'activité par exemple?
Par exemple, nous avons le conflit homme-faune où les éléphants ont toujours détruit le champ des communautés. Nous avons mis un système où effectivement un champ de piment qui dans la zone est un produit qui rend beaucoup d'argent a également la qualité de repousser les éléphants. Donc ces communautés génèrent énormément de revenus en produisant et en vendant le piment. Ce piment également permet de sécuriser leur champ de maïs qui est leur nourriture quotidienne. Et en même temps, nous diminuons les conflits homme-faune. En 2016, par exemple, nous avons eu plusieurs morts. Et nous pensons effectivement qu'en mettant ce genre de projet, nous protégeons la vie des communautés et nous augmentons leur niveau de vie.
Ce que vous venez de me citer, c'est des pays où il n'y a pas, bon, c'est la forêt, il n'y a pas vraiment, et l'environnement n'est pas si dégradé que ça. Mais l'Afrique, il y a des zones aussi où l'environnement est tellement dégradé que c'est devenu fragile.
Nous travaillons également dans les zones où l'environnement est dégradé. Par exemple, nous sommes dans un projet au niveau du Faro et on a également travaillé au niveau du Boubanga.
Le Faro, c'est quoi?
Le Faro, c'est une aire protégée qui est au niveau du Cameroun. Également, Boubanga, qui est une aire protégée bitransnationale avec le Tchad. Dans ces aires protégées également, où l'environnement est dégradé, nous avons un programme d'amélioration et d'utilisation des terres. Les conflits homme-faune anticipent les conflits homme-homme. Et il est donc important de bien prendre en considération ces conflits. La prise en considération, par exemple, de la transhumance.
Là, vous parlez d'élevage.
Je parle d'élevage. Est très important. Parce qu'effectivement, on ne peut ne pas prendre en considération le souci des éleveurs d'avoir un espace de pâturage pour leur bétail. Et on devrait également tenir compte qu'éventuellement, ce pâturage peut coexister avec les aires protégées. Nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec les chefs traditionnels pour prendre en considération les différents couloirs. Autant les animaux ont leur corridor, autant le bétail peut avoir son corridor.
En fait, c'est les fils du pays, c'est des enfants des villages.
Voilà, ces enfants des villages. Nous ne partirons nulle part, nous sommes là. Nous travaillons avec nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, et leurs problèmes sont nos problèmes. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour parler des problèmes que ceux qui vivent ces problèmes-là.
Je vous remercie.
Je vous remercie également.
Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale.
Nous étions en N'Djamena où s'est tenue la conférence des ministres de la CEAC sur l'écosécurité, le conflit homme-faune et les autres conflits liés à l'utilisation de la terre en Afrique centrale du 25 au 28 juillet 2017. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.
Distingués participants, président de African World Life Foundation, with my English book.